Monsieur Leclerc, quel âge avez-vous?
84.
Combien ça fait d'années que vous demeurez à Sainte-Rose ici?
Moi, je suis arrivé à Sainte-Rose en 1910.
Et puis, où êtes-vous né?
Saint-Jean-Port-Joli, province du Québec.
Saint-Jean-Port-Joli, hein?
Saint-Jean-Port-Joli, oui.
Et puis, vous avez été fermier presque toute votre vie?
Oh non.
Non?
Non. J'étais fermier. Ben, quand je suis venu trop riche, j'ai arrêté.
Alors, vous êtes retiré dans ce temps-là?
Oui, ben oui. Quand j'ai vu que le gouvernement il me prenait trop de taxes, hein, je payais trop de taxes, j'ai arrêté de farmier. J'ai pris du quoi qu'il payait pas si cher. Hein, je payais plus de taxes. Dans ça. Après ça, j'étais correct, ça. Je travaillais pas pour le gouvernement.
Quand vous avez parti de la province Québec, là, quel âge que vous aviez-vous?
J'avais juste 20 ans.
Et puis, vous êtes emmené ici à Sainte-Rose. La première place est venue, c'est Sainte-Rose?
La première place, je suis venu à Sainte-Rose. On a passé la province de Québec, il y avait de la neige, je ne sais pas comment, 4-5 pieds de neige. Juste la semaine avant. L'arrivée ici était samedi avant le dimanche des rameaux. Il était probable que ça devait être à la fin d'avril, quelque chose de même dans ce temps-là. Hein. Il était tout en voiture d'été, la poussière dans les chemins. Je disais, quel beau pays, ça, de Manitoba. Hein. C'est pas toujours demain, c'est ça.
Non, loin de là.
Parce qu'il y avait pas mal de neige là-bas, puis ici, il y avait la poussière dans les chemins.
Aujourd'hui, le 7 octobre 1974, nous sommes à Saint-Rose-Gillac, chez M. et Mme Eugène Leclerc.
Ah, j'étais au collège jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai eu mon diplôme de cours commercial. J'ai travaillé dans le magasin pour 3 ans.
Quel collège vous alliez?
Collège Sacré-Cœur à Montmagny.
Et puis, de quelle sorte de magasin que vous travailliez? C'était-tu à Saint-Jean-Port-Joli?
Oui, non, c'était à Saint-Pamphile. C'est Flavien Chouinard, le monde connaissait tout ce monde, ce gars-là.
Alors, les Chouinards, c'est-tu de votre parenté, ça?
Non, pas c'était à Saint-Jean, ça.
Non, pas d'un côté, parce que on avait déjà la parenté qui était là avant nous, avant que mon père vienne. Et c'est eux qui nous ont fait venir à Saint-Labre. C'était du côté de ma mère. Il n'y avait rien d'ouvert. Si on voulait avoir un chemin, il fallait prendre nos haches puis couper les chemins. Il y avait le chemin de fer, oui, à Woodridge. La ligne de chemin de fer était ouverte à Woodridge. On était à 10 000 de Woodridge. J'avais 8 ans quand j'arrivais de France. Et puis, j'ai resté avec mon père jusqu'à l'âge de 23 ans. Je me suis marié et là, je me suis acheté du terrain à Florzé, à 4 milles de Saint-Labre. Là, je me suis marié et puis j'ai resté sur ce terre-là pendant 48 ans.
On est arrivé ici, on a acheté toutes les machineries, quasiment tout à crédit, puis... Le terrain n'était pas si bon que ça, c'était juste à 1,5 mille au ouest ici de Sainte-Rose. Hein. Puis ça nous a pris du temps à les payer, les maudites machines, tu sais.
On avait déjà la parenté qui était là avant nous, avant que mon père vienne. Et c'est eux qui nous ont fait venir à Saint-Labre.
Quand je suis arrivé à Sainte-Rose, elle avait 15 ans, puis moi j'avais 20 ans. Elle avait 15 ans dans le mois d'avril, puis le 18 mai, elle avait eu 16 ans. Elle n'avait jamais été embrassée en cours. Ça l'avait surpris pour commencer. Alors ça, c'était coutumé vite, tu sais.
Je n'ai pas été capable d'aller à l'école. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien. C'est en 1909 ou 10 que l'école de Saint-Labre s'est bâtie.
C'était pas comme Master. Quand le printemps est arrivé, c'était le printemps, c'est pas comme Master. C'était le printemps arrive, puis ça dure 2 mois, le printemps. Avant d'avoir l'été, ça prend du temps. Hein.
Faire un peu de culture comme on pouvait en mesure qu'on ouvrait du terrain. Qu'on pouvait, quand on avait 3,5 piastres la corde sur le char, c'était déjà un gros prix.
Puis l'automne, les gelées arrivent de bonne heure. Fait que les fermiers, ils n'arrachent. Parce qu'on était sur une terre, on avait des animaux, on avait des poules, on avait des dindes, on avait des cochons. Mais moi, j'avais du sucre, j'avais besoin d'acheter du sucre, on servait de miel, tu sais. On n'a pas de manger, mais on n'avait pas assez d'argent pour s'habiller, on n'était pas bien habillé, trop. ne va pas trop, tu sais. On danse souvent.
Il y a eu en 1912, je crois, un feu qui a ravagé pas mal de bois. Mais le monde était assez content que tu voyais que le feu avait passé, qu'il est venu plusieurs settlers après, qui sont venus se derrière le feu, que le bois était mort. Et puis, dans ce temps-là, il n'y avait pas de... Le monde, la ville se chauffait au bois sec. Et puis, il n'y avait pas de gaz, ni d'électricité, ni... Il fallait que toute la ville se chauffait avec du bois.
Sur les champs de bataille, qu'est un champ de douleur, on voit que des mitrailles, ça fait frémir le cœur. J'ai reçu une lettre de ma chère maman, n'ayant point d'encre et plume pour pouvoir lui répondre. J'ai dû prendre mon canif, le tremper dans mon sang, pour pouvoir répondre à ma chère maman. Jetant genoux par terre, appelant ses enfants, priez pour votre frère qui est au régiment. Mourir, il faut mourir, chacun aura son tour. J'aime mieux mourir en brave, faut tous mourir un jour.
Mes parents demeurent là depuis des années, ma mère depuis 1894 et mon père depuis 1903. Ma mère est arrivée ici à l'âge de 7 ans et quelques mois. Ils étaient venus ici, quoi, espérant trouver un peu d'aisance. Il y avait les homesteads qu'on avait pour 10 $. Il y avait eu la propagande de fait. Ils avaient déjà un cousin qui était venu ici, un nommé Garot, Azari Garot, le premier à venir dans la paroisse de Bellevue, qui était venu ici à Batoche pour construire l'église qui existe encore, le monument historique. C'est des Garot qui avaient bâti ça, 3 frères. 2 étaient venus ici garçons, se sont mariés avec des métisses, mais Azari était déjà marié. Il est venu ici par après, il s'est engagé pour les Pères Oblats, il a construit l'église, il n'y a pas la construction de l'église, il a pris son homestead le plus près qu'il a pu, c'est-à-dire à Bellevue. Et là, il a été là des années, il a eu du trouble avec le général Middleton. Quand Middleton est venu ici pour la rébellion de Riel, on l'avait mis 3 jours prisonnier dans sa maison, personne ne sortait, c'était les soldats qui allaient traire la vache, qui apportaient le lait et la mangeaille à la maison. On croyait que Riel se cachait dans la maison ou tout au moins dans le puits. Alors on avait descendu un soldat dans le puits. Alors M. Garot, qui était par sa femme, un cousin de mes grands-parents, avait eu une passe sur le chemin de fer en 92 pour aller passer quelques mois dans l'Est, faire du recrutement pour le Canadien français sans venir dans l'Ouest. Et elle avait été visiter tous ses cousins et cousines et tout le monde qui pensait. Il avait fait de la propagande auprès de mon grand-père maternel pour s'en venir dans l'Ouest. Alors ils ont décidé, s'ils vendaient leur terrain là-bas, qu'ils s'en viendraient ici. Mon grand-père était très pauvre, d'une pauvreté, je dirais, extrême. Alors il a vendu le petit brin qu'il avait, il a fait une encan, ça en est venu ici. Ils sont arrivés ici, je peux vous dire la date, je l'ai ici, si ça vous intéresse plus tard. Ils sont arrivés ici le 26 mars 1894 à 8h du soir. Et comme ils descendaient ici à Duck Lake, c'était à ce moment-là, non pas le Canadien national, c'était le Northern Grand Trunk qui avait construit la ligne de chemin de fer. Mais on avait loué au CPR la ligne et c'était que des années après que le CNR a acheté la ligne qui est maintenant CNR. Il y avait là trois personnages pour les recevoir. M. Azari Garou, le premier à venir là, et son beau-frère Philippe Chamberlain, qui était un peintre de métier, qui était venu ici par aventure. Il a vécu dans la rébellion de Riel, comme cuisinier des Anglais, etc. Il avait pris un homestead. Il avait marié la sœur à Azari Garou. Ils sont venus les rencontrer là, et le soir même, ils sont descendus à Bellevue. Ils étaient venus tôt dans le printemps pour pouvoir traverser la rivière, sur la glace. Parce qu'après ça, il aurait voulu attendre tard au mois de mai, et ça aurait voulu aller faire tout un détour, aller passer plus au sud pour traverser sur le bac, quand le bac traverserait.
Voilà. Qu'est-ce que tu dis? J'ai des allergies, moi, ça s'arrête pas. C'est insupportable.
Oh,
insupportable.
Oui. Tu veux qu'il faut que tu rentres en France?
Bah, oui. Non, franchement, pour ça, je crois.
Ah bon, d'accord. Alors, en fait, il faut...
Mais bon, on ne peut pas rentrer en hiver alors que c'est l'été ici, donc je vais rentrer en été.
Oui. Alors là, tu restes l'été là-bas. Je fais ça.
Ouais.
L'automne ici. Et puis... Et puis, comme c'est l'hiver, tu reviens en France.
Ils sont arrivés ici. Ça, c'est mon grand-père maternel. Il n'y a pas eu d'église à Bellevue, il fallait qu'ils aillent à la messe à Batoche. Bon, en 1902, ils ont eu un curé résident. Et là, il y a eu une affluence de colons. Mon grand-père paternel est venu. Mais mon grand-père paternel est venu ici avec de l'argent. Avant de partir, il avait même pris tout un char, un train, un char de matériel. Du bois, des portes, des fenêtres, des clous, tout ce qu'il lui fallait pour construire sa maison. Alors, en arrivant, elle a construit toute une maison dans laquelle j'ai vécu moi-même. C'est mon père qui a eu la ferme du grand-père. Et on... Alors, je suis né, moi, à Saint-Isidore-de-Bellevue, il y a 51 ans.
Les gens de mon pays. Les gens de mon pays, c'est la jeunesse. C'est l'espoir. C'est l'Est et la naissance. C'est l'Ouest et ses légendes. Aujourd'hui, l'émission vous parvient de Saint-Boniface, Manitoba. L'invité, M. Henri Letourneau, collectionneur de vieilles chansons et d'objets d'antiquité pendant ses loisirs, parlera des Métis. Mais avant, voici une chanson intitulée « La Métis » et qu'aurait composé Louis Riel. L'interprète, Mme Jean Lafrenière de Saint-François-Xavier, est âgée de 65 ans.
Je suis métisse et je suis orgueilleuse d'appartenir à cette nation. Je sais que Dieu, de sa main généreuse, fait chaque peuple avec attention. Les Métis sont un petit peuple encore, mais vous pouvez voir déjà leur dessein. Être trahis comme ils sont les honneurs, ils ont déjà rempli de grands desseins. Oh, si jamais je devais être aimé, je choisirais pour mon fidèle amant.
L'histoire des Métis au Manitoba, ou si vous préférez dans l'Ouest canadien, mais je préférerais me concentrer au Manitoba, là, ça remonte à quand?
C'est assez difficile. Apparemment, certains noms qu'on relève d'un premier recensement de la Rivière-Rouge, peut-être vers 1800 ou 1808, peut-être 1807, apparemment, il y avait quelques Métis dans le temps. Il y avait des Canadiens français mariés avec des Indiennes. Mais il y avait aussi des Métis qui apparemment venaient des États-Unis. Vous savez que dans les Illinois, puis peut-être dans le Missouri, il y avait déjà des Métis.
français. On a dit qu'au Manitoba, les Métis et les Indiens, pour ce qui est des Indiens, il n'y a pas de problème, mais les Métis étaient là bien avant les Blancs.
Oui. Mais seulement que je ne sais pas s'ils auraient été avant les Blancs. C'était un peu douteux, ça. Pourquoi les Métis faut accueillir des Blancs?
Oui, d'accord, mais ils pouvaient venir, par exemple, des États-Unis, comme vous mentionniez précédemment.
Je trouve encore, par exemple, en 1808, un homme qui était très fameux parmi les Métis, certains de sa famille prétendent qu'il ne l'était pas, puis pour moi, il l'était, Pascal Breland.
Non, j'ai pas aucune idée.
Votre mère, qu'est-ce qui était son nom de fille?
Marie. Racette.
Marie Racette. Et puis, d'où est-ce qu'ils venaient, vos parents?
De Winnipeg.
Et puis, qu'est-ce que c'est qu'était le premier nom de votre père?
Lyon.
Et puis, ici, à l'école, là, vous avez été jusqu'à quel grade? C'est-tu à Batoche que vous avez été élevé ou non, ici, à Duck Lake?
À Saint-Laurent.
Oh, à Saint-Laurent, hein?
Yeah.
Saint-Laurent-de-Grandin.
Saint-Laurent-de-Grandin.
Et comme ça, vous êtes né là?
Yeah, j'ai venu là.
Et puis... Vous avez été à l'école jusqu'à quel grade, à peu près?
Je prenais avec le grade 2.
Grade 2.
L'école a arrêté. Les mondes ne pouvaient pas payer les taxes, vous voyez. Là, je n'ai pas pu aller plus loin. Au commencement, on a appris le français. Ils l'ont arrêté ça. Il fallait apprendre rien que l'anglais. Ça, ça nous a mis en arrière. On comprenait rien que nos pièces dans l'anglais. Là. Dans la cour seulement, il ne fallait pas parler français, rien que l'anglais. Qu'on avait-tu de l'air bête de s'en regarder, pas être capable de dire un mot.
Les Québécois, ça c'est de ma petite enfance. 1925-30, on a toujours eu des Québécois qui venaient par excursion, restaient pour le temps des récoltes, et même quelques-uns sont restés pour plusieurs années. Quelques-uns seraient peut-être restés, mais je n'ai pas connaissance. Mais en 1930, quand la crise est arrivée, j'avais des grands frères, et eux ont aidé aux parents, à mon père. Quand moi j'étais d'âge de faire les quintaux et les battages, c'était des Indiens qui venaient nous aider. Tous les ans, c'était toujours à peu près le même groupe d'Indiens qui revenaient chaque année pour faire les battages, surtout les battages, avec des chevaux. Nous avions assez grosses machines. Il nous fallait soit 8 teams, avec, vous savez, 8 wagons et 8 racks, ou bien non, 6 teams avec 2 field pitchers. C'était des hommes en plus, que tout ce qu'ils faisaient, ils nous aidaient à charger les gerbes. Et nous autres, moi, dans mon cas, ça, je conduisais les chevaux, la machine, là, on déchargeait dans la machine à battre.
Ça veut dire votre machine à battre avait au moins de 28 à 32 pouces.
C'était ce qu'on appelait une Advanced Rumley, 28 pouces Heavy Duty. C'était une grosse machine. On pouvait en mettre dedans tant qu'on voulait, puis envoyer. Et mon frère, qui était le Separator Man, se mettait sur la machine, puis quand c'était vraiment sec, là, hein, il nous faisait signe, mets-en dedans, dépêche-toi, perds pas de temps, ce temps est beau.
Est-ce que les journées étaient longues?
Oh, un peu longues. Habituellement, 13 à 14 heures.
Une chose que j'aurais dû vous demander aussi, c'est la grandeur de la ferme en culture, c'est-à-dire.
Là, je ne sais, me souviens pas combien d'arbres nous avions. Nous avions 5 carreaux de terre. Mon père avait 5, en 1930, avait 5 carreaux de terre.
Ça veut dire une section et un carreau, oui.
C'était grand pour le temps, et il était considéré comme étant assez à l'aise.
Très grand pour le temps. Dans ce temps-là, c'est l'Isidore de Bellevue. Aviez-vous beaucoup de métis dans les
parents? Pas dans mon temps. Non. Mais dans les débuts, c'était presque tous des métis. Tellement que la première église, Monseigneur Pascal avait donné l'ordre au curé de construire entre les deux groupes, non pas dans le groupe canadien-français ou dans le groupe métis, mais construire entre les deux. Et elle avait été construite plus au sud qu'elle est maintenant.
Content de léger Loire inférieure, c'est le nom que ça portait maintenant, la Loire inférieure a changé le nom un peu, je ne sais pas comment ce qu'il dit ça.
Est-ce que ça pourrait être
C'est pas de la Normandie ou de la Bretagne, non?
Non, c'est de la Bretagne. Tu fais partie de la Bretagne, oui.
Maintenant, vous avez toujours été cultivateur. Hein?
Tout le temps.
Nous allons continuer maintenant. Nous sommes encore chez Mme Adélaïde Ranger à Batoche. On va continuer avec Madame Pombreux. Plus que ça va, plus que c'est intéressant. Vous dites votre mère, là, quand elle est venue, sont venus de l'Est. En cadeau, ben non. Comment est-ce qu'il était venu de l'Est pour se rendre jusqu'ici par terre en charrette?
Oui, en charrette, puis je pense qu'il y en avait même qui avait un wagon.
Il va emmener des animaux.
Attacher un tour rouge avec une tête blanche. On l'appelait Tida. Et puis, ils sont settlés. Ils ont été settlés à Carlton, une secousse. Et puis, après ça, ils ont mouvé à Dock Lake, à long du lac. Puis là, d'un coup, la rébellion l'a pris. Puis quand la rébellion l'a pris, là, ma mère arrivait à son troisième enfant, vraiment. Et puis, elle allait sniquer à travers le bois pour les gens se faire tuer. Elle a vu quand Gabriel Dumont, qui s'est fait frapper dans la tête, là, puis qu'il a fait le tour comme ça, là, qu'il a tombé. Mais il n'a pas resté tordu mais longtemps. Pareil. Et puis, j'ai Gabriel Dumont. Moi, j'avais connaissance de lui comme il faut. J'arrivais de l'école, puis il m'a dit de mettre ma main dans ma main. Tu es la petite fille, il dit, mets ta main dans ma plaie ici. Il dit, les Anglais, il dit, les Blancs, il dit, qu'ils ont frappé le bois brûlé. Il s'appelait Bois Brûlé, lui, pour rien, parce qu'il était métis, tu savais. Et puis, j'ai été. J'étais petite fille. J'ai avancé, puis j'ai mis mon doigt dans sa plaie, comme ça, là, une plaie tout en croche, ici, là. Vous voyez?
Vous rappelez, tout à l'heure, vous disiez d'avoir vu des prisonniers, hein?
Ah oui, j'en ai vu plusieurs, des prisonniers. Enchaînés contre plancher. J'avais un oncle, même seulement. Il y a un cacousse qui buvait. Il allait travailler, puis il gagnait 100 piastres. Puis il arrivait en ville, là, tout bien habillé. Il buvait. Puis quand il caracolait sur la rue, ben donc il traînait à quatre pattes, ça le ramassait, puis ça le mettait dedans. Puis ça l'enchaînait. Un homme fort, fort, fort. Un grand homme, un homme, il s'appelait Pierre. Pierre Arcange, là.
Et puis ça devait
servir. C'était un bon homme à Jean-Hébergien, mais il était si fort, vous savez. Tout le monde, il l'en voulait pour sa force.
Il va se servir de la petite prison qu'il y a dans Clic.
La petite prison, là, oui. Oh, puis il y a plusieurs d'autres qui sont peut-être enchaînés, là, c'est des... Ils sont peut-être enchaînés contre le plancher.
Ah oui, il y a des anneaux à terre encore, hein?
Les oui, anneaux, oui, il y avait des anneaux encore à terre, là. Et puis les châssis, là, ben, c'était des bords de fer sur le travers, comme ça, là. Et puis, Madame Hooper, c'était la femme du sergent Hooper, une femme d'Angleterre, Helston Burns, Jesse Burns, qu'elle s'appelait. Puis son mari, c'est Charles Louis Hooper. Je l'avais son portrait, que quelqu'un qui l'a pris, puis il l'a lâché dans la...
Ils sont bien composés.
Non, après un chalvaire ou chose. L'exhibition, là, Exhibition Grounds. Il est là-dedans, le portrait, là, je l'ai reconnu. Puis en arrière, c'est moi qui Charles Louis Hooper.
Aujourd'hui, le 18 septembre 1971, nous sommes chez M. Eugène Poiron à Woodridge. M. Poiron est anciennement de Saint-Laubre. M. Poiron, combien d'années avez-vous demeuré à Saint-Laubre?
De 8 ans à 23 ans. J'avais 8 ans quand j'arrivais de France, et puis je restais avec mon père jusqu'à l'âge de 23 ans.
À Saint-Laubre. Et puis ensuite, après l'âge de 23 ans,
je me suis marié, et là je me suis acheté du terrain à Florzé, à 4 milles de Saint-Laubre. Là, je me suis marié, et puis j'ai resté sur ce terre-là pendant 48 ans.
Votre père, là, vous a-t-il déjà parlé de la rébellion? Comment ça avait été, là, à Batoche, tout ça? Là?
Oui, des petites choses, pas des affaires importantes.
Non.
Non.
Il avait bien connu Riel.
Oh, bonté, oui, il avait des assemblées, hein, puis je connaissais Riel comme c'était un de mes parentés, hein.
Et puis, votre femme, elle, qu'est-ce que son nom de famille? Votre femme?
C'est une recette.
Une recette aussi. Votre femme, c'est une recette aussi.
Ma fille, c'est une recette.
Oui. C'est bien intéressant, ça, parce que vous savez, il y a une recette qui appelait Shaman, il avait été bien important, la Rivière Rouge, un temps, le longtemps. Oh. Shaman recette, oui.
Comment, pour son premier nom?
Shaman.
Oui, j'ai entendu parler Shaman, mais c'était un mot, un petit nom.
Oui, son petit nom, oui.
Oui, son petit nom. Mais, vous connaissez, on a discuté, il y a quelqu'un qui me demandait à propos de la recette, son premier nom, vous ne savez pas juste quel nom qu'il a.
Je pense à Charles, je ne suis pas certain.
Je pense ça aussi, moi. Yeah. Je pense à Charles.
Merci, Mme Cartier. C'était-tu parent avec vous, ça n'est pas? Vous ne savez pas si c'était parent avec vous, ça, hein, Charles, là, Shaman?
C'est ça, quoi, ce qui m'embête. Il y en a qui m'ont demandé. Le père de ma mère, Racette, là, son premier nom. Son petit nom. C'était un petit mot gris, je pense. Non, je ne peux pas me souvenir.
Vous avez oublié ça. Vous avez chanté une chanson là, l'autre fois, là. J'ai attendu, là, à propos de votre bouteille. J'ai trouvé ça bon, c'était effrayant. Je l'avais jamais entendu, cette chanson-là. Y aurait-il moyen de vous la faire chanter?
Tant qu'à moi, c'était par folie de chanter ça.
Ah,
c'était
mais pas... c'était bon quand même. C'est une vieille chanson à boire, hein.
Le matin, quand je me lève, là, je mets la main sur le cou.
Oui, c'est ça. Vous les voyez, c'est bien.
Oh, ben si, je sais, je vais arrêter,
mais
j'ai trouvé ça tellement bon. Ces vieilles chansons-là, comme ils m'ont fait chanter des chansons, ils m'ont dit, pourrais-tu nous chanter des chansons des voyageurs? Alors je dis, oui, j'en connais quelques-uns. Elles sont bien composées. D'après moi, ne parle pas pour parler. Je vais faire mon best, on est là, ouais. Mais la chanson que j'ai chantée, là, c'était une chanson bien composée. D'après moi, ne parle pas pour parler. Veux-tu chanter?
Notre papa vous mariera avec celui que tout cœur aime, notre maman consentira.
Merci, Mme Carrière. Mme Carrière va maintenant chanter « Fillette à marier ».
Je suis dans la tristesse, partie ce printemps. Je sens mon cœur se glace dans mes sangs. Prie pour moi, la belle, souvent pensez à moi. Au retour du voyage, belle, je t'épouserai. Nous voilà donc partis, nous voilà arrivés. Depuis 2 ans, la belle, que je t'ai entendu parler. Tu me disais, la belle, que tout était changé. T'en souviens-tu, la belle, quand nous étions tous deux? T'en souviens-tu, la belle, le soir à la chandelle? Le soir à la chandelle.